Ce matin, nous avons essayé de comprendre cette première parole de Jésus sur la croix, cette parole bouleversante d'un Fils bien-aimé qui n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté de son Père. Tout dans la vie du Christ est ordonné à l'accomplissement de cette volonté. Et voilà qu'au terme de sa vie, accomplissant encore la volonté du Père et l'accomplissant d'une manière ultime, Jésus, sur la croix, nous dit ces paroles: « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'agit d'un mystère. Il ne s'agit pas du tout d'une question d'ordre psychologique. Ce serait incompréhensible. Il s'agit d'un mystère. Unir à la fois une unité profonde qui existe entre Jésus et le Père. Et d'autre part, une épreuve terrible, voulu par le Père. Une épreuve à l'égard de son Fils bien-aimé. Pour que ce Fils bien-aimé puisse donner tout son cœur, toute sa volonté, de la manière la plus intime et la plus pauvre. Voyez jusqu'où va la pauvreté. C'est peut-être cela qu'il y a de plus extraordinaire dans cette parole de Jésus. Jusqu'où va la pauvreté? Cette unité si forte, si merveilleuse qui existe entre le cœur de Jésus et le Père. Cette unité si grande qui a animé toute sa vie et qui anime encore son cœur de crucifié. Cette unité substantielle de vie, d'amour, de lumière. Le Père et moi, nous sommes un. Je sais très bien, quand Jésus dit ça, il s'agit du Verbe de Dieu. Mais étant donné que l'humanité subsiste dans le Verbe de Dieu, c'est toute l'humanité sainte du Christ qui est intimement prise par ce mystère d'unité et qui vit de cette unité. Et pourtant Jésus affirme en toute vérité: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Expérience de Jésus vécue sur la croix. Il croissait en sagesse. Et saint Thomas explique qu'il s'agit de la connaissance expérimentale. Il ne s'agit pas de l'acquisition d'une grâce plus parfaite. Il ne s'agit pas de vertus nouvelles ou de progresser profondément dans l'amour et dans la charité. Il s'agit d'une expérience nouvelle. Et quand Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est une expérience que Jésus vit sur la croix. Cette expérience d'un vide, d'une absence, cette expérience crucifiante au plus intime de son cœur. Puisque Jésus obéit, le Père devrait être là. Quand on obéit à quelqu'un qui nous donne un rendez-vous et qu'il est là pour nous accueillir, pour nous recevoir. Et voilà que le Père, qui a demandé à son Fils l'offrande de sa vie, selon cette modalité particulière du mystère de la croix, le Père n'est pas là. Au niveau de l'expérience du cœur humain du Christ, il est absent, il se tait. C'est bien le mystère de la pauvreté. Toujours le parallélisme avec le cinquième mystère joyeux. Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi me cherchez-vous? Ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? Et Jésus est tout entier aux affaires du Père et le Père est absent. Pour nous, c'est très important. Toutes les paroles de Jésus crucifié ont un poids d'amour infini. C'est comme le résumé de toute sa vie apostolique qui nous est donnée avec une très grande intensité. Et Jésus vit cette absence pour nous apprendre à accepter de dépasser ses absences pour vivre d'un amour au-delà de l'absence et de la présence. C'est pour nous qu'il a vécu cela. C'est quelque chose d'ultime, ne disons pas « Oh, c'est au début, c'est normal, ce sont des purifications. » Non, ce n'est pas des purifications. C'est l'exigence même de l'amour divin. On ne peut pas dire sans des purifications. Quand il s'agit de ce que Jésus vit sur la croix, c'est l'exigence même de l'amour divin pour que le cœur de l'homme connaisse une pauvreté ultime. Un dépouillement total pour que l'amour puisse tout prendre. Quand on est trop attentif à la présence, quand on est trop joyeux de la présence, quand la présence n'est pas vécue de façon suffisamment divine et qu'on s'y arrête et qu'on s'y installe, l'amour n'est plus libre, l'amour divin n'est plus libre. Et l'amour divin ne peut plus réaliser ce qu'il veut réaliser et se communiquer autant qu'il le veut à notre cœur d'homme. Il faut que Jésus vive ce mystère de séparation pour nous faire comprendre ce dépassement de l'amour par rapport à la présence et l'absence. Je crois que ça va très loin comme lumière pour nous dans notre vie divine et notre vie contemplative. C'est tellement important. Au fond, toutes les purifications de Saint Jean de la Croix, toutes, se résume dans cette parole. Et c'est cette parole qui leur donne une signification dernière. Parce qu'alors ce n'est plus vu comme des purifications, c'est vu à travers le cœur de Jésus et dans le cœur de Jésus comme l'exigence même de l'amour du Père bien-aimé. C'est le Père bien-aimé qui traite de cette manière son Fils bien-aimé. Et ça fait partie de ce lien d'agapé, ça fait partie de ce lien de charité qui unit le Fils bien-aimé à son Père. Ce lien implique une expérience d'absence tant que nous sommes sur la terre, pour permettre à l'amour d'aller jusqu'au bout, pour le permettre à l'amour divin d'aller jusqu'au bout de sa communication divine. Notre cœur doit accepter cette nudité. Je vais tout de suite avec vous regarder cette autre parole que saint Luc au chapitre 23 nous rapporte. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, remets-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est la seconde parole de Jésus. C'est ce regard de Jésus vis-à-vis de son peuple. Vous voyez comme c'est important de voir ces paroles qui nous font entrer dans le mystère de lien d'amour du Fils bien-aimé et du Père, et le lien d'amour de Jésus et de son peuple. Amour à l'égard du Père, charité fraternelle. Toujours, on ne peut pas les séparer. Ils sont inséparables. Et ils sont inséparables jusque dans le mystère de la croix et jusqu'au moment ultime où Jésus lui-même nous fait entrer dans ces deux abîmes. Ce premier abîme à l'égard du Père. Pour que l'amour prenne tout, il faut accepter ce dépouillement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce dépouillement radical qui nous fait comprendre cette expérience de pauvreté de Jésus crucifié. Et cette autre expérience de Jésus crucifié, c'est à l'égard de la charité fraternelle. Et c'est le pardon. Père, remets-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce qu'il y a de plus grand dans la miséricorde divine, c'est le pardon. Et la miséricorde divine se rattache directement à la charité fraternelle. Il y a donc une plénitude de charité fraternelle dans le cœur de Jésus crucifié, dans le cœur du tout petit enfant Jésus. Jésus a toujours vécu dans cette plénitude de charité. Mais cette plénitude de charité prend à ce moment une modalité particulière dans son exercice. Et là, il y a une expérience encore nouvelle du cœur de Jésus. Et cette expérience nouvelle du cœur de Jésus dans la charité fraternelle, c'est le pardon. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner divinement, c'est se servir de la blessure qu'on nous a faite pour être plus lié à celui qui nous a blessés. C'est se servir de tout ce qui nous a abîmés, écorchés, brutalisés, humiliés, tout ce qui nous a rejetés. C'est se servir de tout cela pour être plus unis à celui qui en était la source. C'est très difficile, la miséricorde. Hein? Nous l'exerçons souvent d'une façon très humaine. Mais l'exercice divin de la miséricorde est quelque chose d'étonnant. Il faut avoir le cœur de Jésus et la grandeur du cœur de Jésus pour pouvoir réaliser un tel acte. Au point de vue humain, notre cœur est trop petit, il est trop fragile. Nous aimons mieux souvent oublier que de pardonner. C'est terrible, mais c'est comme ça. L'oubli est d'ordre psychologique. On oublie des tas de choses quand on est fatigué. On oublie. C'est-à-dire ne plus se rappeler. J'ai complètement oublié. Ça m'a sorti de la tête. On voit très très bien ça. Ça, c'est l'oubli. L'oubli, c'est un manque. Une présence. Très souvent, l'oubli provient d'un manque d'amour. On oublie beaucoup plus facilement tout ce qui ne nous touche pas directement, tout ce qui n'est pas relié à nos amis. Tout ce qui est relié à nos amis, ça nous touche. Et alors, on ne l'oublie pas, cela. Il y a le lien affectif. Tandis que quand il n'y a pas de lien affectif, alors, on oublie très facilement. Ça arrive très facilement d'oublier. Le pardon vient d'en haut. Mais on pourrait dire que l'oubli est horizontal, hein, tandis que le pardon est vertical. Hein. Il vient directement de Dieu et du cœur de Jésus. Le Père est infiniment miséricordieux. Et le Fils est infiniment miséricordieux. Et c'est à travers le geste du pardon que se manifeste de la manière la plus forte cette miséricorde. C'est l'acte principal. Alors comprenons cette parole de Jésus qui nous met en présence de cet ultime pardon. Père, remets-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et se partager ses vêtements, ils jetèrent les sorts. Si Jésus est à la croix, crucifié, c'est pour obéir au Père, c'est sûr. Et au plus intime de son cœur, c'est la grande raison, c'est pour obéir au Père. C'est pour être tout un avec le Père. C'est pour ça qu'il accomplit le mystère de la croix. Mais il y a aussi les hommes qui profitent de la situation. Le Père a permis l'arrestation. Le Père a permis l'arrestation de Judas. Le Père a permis cette complicité entre les grands prêtres et Judas, entre le Sanhédrin et Judas. Le Père a permis cela et les hommes s'en sont servis. Et les hommes ont réalisé cette fausse alliance. Et les hommes ont réalisé l'arrestation de Jésus. Ils l'ont réalisé dans telles circonstances. dépression, dans la pauvreté, dans le sang. C'est sanglant. Les hommes ont coopéré. Les hommes ont voulu la mort de Jésus. Ils l'ont voulu. Ils ont tout fait pour qu'il soit crucifié. Ils sont arrivés à leur projet. Et c'est Jésus, dans son amour brûlant pour le Père, et c'est Jésus, dans cet amour si pauvre, vécu à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est dans la lumière de cet amour-là, dans la lumière de cette absence, si on peut dire, que Jésus va pardonner aux hommes, aux bourreaux, au grand prêtre, à Judas. Jésus pardonne, et son pardon n'a pas de limite, est infini. C'est un pardon d'amour, et ça ne peut se comprendre que dans cette surabondance d'amour. Au moment même où il est crucifié, au moment même où il souffre de cette haine de ces hommes jaloux, c'est à ce moment-là où Jésus pardonne. Il demande au Père de leur pardonner. Il se fait le médiateur. Lorsque le Père se tait, Jésus est médiateur pour ceux qui ont rejeté son amour. Il se fait le médiateur dans l'ordre du pardon, dans l'ordre de la miséricorde, dans l'ordre de la surabondance de l'amour. Là, nous découvrons ce que c'est que la miséricorde chrétienne, celle de Jésus. Là, nous découvrons ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce dernier regard de Jésus sur son peuple et sur les grands prêtres. Ce dernier regard de Jésus vis-à-vis de tous ceux qui ont dit « crucifiez-le », Jésus leur pardonne. Jésus se sert donc de leur lâcheté. Jésus se sert donc de leur méchanceté. Jésus se sert donc de toutes les conséquences de leur orgueil, de leur vanité, de leur égocentrisme. Jésus se sert de tout cela pour se donner plus, pour être plus proche de ces hommes et de leur faire comprendre qu'il les aime d'un amour qui dépasse tout, d'un amour fou. Père, remets-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous voyez que Jésus s'adresse au Père, tandis que quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a pas dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tandis qu'ici, il parle au Père, il s'adresse au Père, il est le médiateur entre ces hommes qui viennent de le rejeter, qui viennent de le crucifier. Il est le médiateur entre ces hommes et le Père. Il s'adresse au Père en disant « Père », tandis qu'au contraire, dans cette expérience qu'il fait de l'absence, il parle de Dieu. Il y a sûrement une raison, c'est pas laissé au hasard. On comprend du reste. Jésus souligne jusqu'où va l'abandon. C'est l'abandon de la petite créature, livrée à elle-même. Qui n'a plus aucun lieu de repos, puisqu'elle ne peut se reposer que dans son Créateur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est donc bien la petite créature, dans la mesure où nous pouvons dire que l'humanité sainte du Christ est une créature. C'est cette humanité sainte de Jésus qui vit cet abandon de Dieu. Dieu se tait, Dieu le laisse. Et Jésus, médiateur d'amour, comme grand prêtre, s'adresse au Père. Au Père de toute miséricorde, pour lui demander cette miséricorde à l'égard de son peuple. Remets-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus demande pour son peuple ce pardon. Que le Père permette, que le Père, dans son amour miséricordieux, permette que l'union qu'il a avec ceux qui l'ont rejeté soit plus grande, soit plus intense, qu'il pénètre davantage au plus intime de ses frères révoltés. C'est une demande qui est immédiatement réalisée. Et dans cette demande, après avoir dit « Remets-leur », il montre, ils ne savent ce qu'ils font. C'est un jugement de miséricorde, voiler la faute et non pas la proclamer, voiler la faute de ce voile de l'ignorance. Quand on commet une faute par ignorance, on le sait, la culpabilité en est diminuée, dans la mesure même où cette ignorance est là pour empêcher un acte humain. Jésus sait l'ignorance de son peuple à l'égard de son mystère. À l'égard du mystère du Verbe incarné, il le sait. Plutôt que de souligner leur incrédulité et leur responsabilité à l'égard de leur incrédulité, en insistant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, qu'il avait été aussi loin possible, et que ce peuple à la nuque raide, n'écoutez plus. Ce n'était plus la peine de rester. il valait mieux partir. Pour diminuer leur culpabilité, il fallait partir au moment même où cette ignorance était encore là. Si Jésus était resté plus longtemps, si Jésus avait pu encore s'évader, c'était facile pour lui, hein, quand on est venu l'arrêter avec la bande de soldats, avec la cohorte. C'était très facile. Quand Jésus interroge et leur demande « Qui cherchez-vous ?» On sait très bien qu'à cette interrogation de Jésus, suivie de cette affirmation « Jésus le Nazaréen », et quand Jésus dit « C'est moi », immédiatement, tous sont terrassés. La présence de Jésus dévoilée les terrasse. Jésus aurait pu partir. Non, c'est l'heure. C'est l'heure du Père. Et c'est l'heure du Père parce que c'est l'heure de la plus grande miséricorde. Et la plus grande miséricorde implique cette parole de Jésus. Père, remets-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est à ce moment-là où la miséricorde du Père va le plus loin à travers le cœur de son fils. Ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, ils sont excusables. Tu peux les regarder avec toujours le même amour. Tandis que si cette ignorance était tombée, ils ne seraient plus excusables. Et c'est l'envoi que l'heure voulue par le Père, c'est l'heure de la miséricorde. Et de la plus grande miséricorde. Et Jésus remet tout entre les mains du Père. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est le regard de tendresse, de pardon de Jésus sur son peuple, lui qui est la lumière du monde, lui qui sait parfaitement. Et ce n'est pas en avocat qu'il dit cela, il le dit comme prêtre bien-aimé, comme fils bien-aimé du Père. Ils ne savent ce encore, cette parole est pour nous si importante parce qu'elle nous aide à comprendre ce que doit être la manière dont nous devons pardonner. Toujours en nous adressant au Père et en passant par la blessure du cœur de Jésus, en passant son mystère de résurrection et de crucifixion. Et Jésus nous montre et nous donne le modèle de ce pardon. On demande que tout soit pardonné, tout soit remis. Et la raison, c'est notre manière de voiler, de cacher la raison de ce pardon, c'est qu'ils ignorent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Jésus est fils de Dieu. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils font blesse le fils de Dieu. Jésus sait. que parce que leur passion les aveugle, ils ne peuvent plus voir qui est Jésus. Ils ne peuvent plus être attentifs aux signes. Alors, Jésus nous fait comprendre que nous aussi, quand nous devons pardonner, au moment même où on nous a blessés, au moment même où on a dit une parole qui a atteint toute la vulnérabilité de notre cœur et qui nous a blessés profondément, parce que justement, ce n'était pas la vérité. De pouvoir dire comme Jésus, « Père, remets-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Se servir comme Jésus de toutes les conséquences du péché pour se rapprocher, pour pénétrer plus avant dans le cœur de ceux qui nous ont blessés, pour pouvoir les embrasser avec plus d'amour, pour pouvoir leur dire notre amour. Père, remets-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il faut que nous demandions très fort ce soir à Marie, qui a reçu ces paroles dans son cœur et qui les a vécues, et qui les a vécues comme une grande lumière, comme un glaive. Que nous recevions ces paroles dans notre cœur pour que nos liens avec nos frères dans la vie commune, c'est pour ça qu'il y a une vie commune, c'est pour qu'il y ait souvent plus de brisures, des écorchures, des moments très durs. Jésus permet cela pour que nous puissions pardonner, pour que les œuvres de Dieu, les œuvres du Père puissent être manifestées. Et elles sont manifestées par ce pardon. Puisque par là, nous faisons une œuvre commune avec Jésus, puisque par là, nous réalisons en plénitude ce que Jésus lui-même a réalisé. Comprenons comment il faut vivre de cet amour qui se traduit en pardon pour que jamais une communauté se divise, pour qu'elle soit pleinement ce qu'elle doit être, sans recherche de division, d'opposition, mais au contraire en essayant de faire que l'unité soit toujours plus parfaite, plus grande, plus divine. C'est le désir de Jésus. Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font. ce soir, toute cette nuit et la journée de demain. Demandons à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie de nous aider à vivre de ce grand mystère du sépulcre. Le corps du Christ, le cadavre de Jésus remis à la terre. Jean abrite Marie. Les pères de l'Église ont aimé de mettre en parallèle la terre vivante en laquelle le mystère de l'incarnation s'est réalisé en Marie. Marie, après son fiat, porte comme source de vie le Verbe qui devient chair sous l'opération de l'Esprit Saint. Et le cadavre de Jésus qui est remis à la terre après que Marie a dit son fiat silencieux du mystère de la compassion et que Jésus a tout remis entre les mains du Père. Le cadavre du Christ est remis à la terre. Il fallait que Jésus connaisse cette dernière conséquence du péché, la mort, et le cadavre remis à la terre. Et l'âme de Jésus qui descend aux enfers. L'iconographie chrétienne a aimé de montrer cette rencontre de Jésus avec Adam et Ève, le nouvel Adam qui rencontre le Père de l'humanité, la mère pécheresse, mais qui demeure dans cet espoir du salut, cette grande attente de tous ceux qui sont morts avant Jésus et qui sont morts dans l'espérance d'un sauveur. Et Jésus, dans son âme de fils bien-aimé, dans son âme sacerdotale, qui va à leur rencontre pour les sauver.